Vous écoutez, on lit pour vous.
Mettre fin au pourriel, récupérer sa musique et éradiquer un logiciel intempestif. Un texte d'Alain McKenna, paru le 12 novembre 2025 dans la presse. Neil Touzin, un lecteur, demande « Comment bloquer des courriers indésirables définitivement? » Malheureusement, la réponse n'est pas celle que vous espérez. Il n'existe aucune solution magique pour bloquer définitivement le courrier indésirable. La raison est simple. Les fraudeurs et les polluposteurs n'utilisent presque jamais la même adresse deux fois. Ils les créent et les jettent par millions. Si vous bloquez fausse-promo@arnaque.com, ils enverront le prochain courriel depuis fausse-pub@attrape.com. L'option « bloquer l'expéditeur » est presque inutile contre le vrai pourriel. La meilleure arme à votre disposition est le bouton « signaler comme indésirable » ou « signaler comme pourriel ». Ce geste ne fait pas que supprimer le message. Il entraîne l'intelligence artificielle de votre boîte aux lettres Gmail et Outlook à reconnaître et intercepter ces messages avant même qu'ils n'arrivent jusqu'à vous. C'est un combat constant, mais le signalement est votre meilleur allié. Paul Bélair, un lecteur, demande « Une très grande partie de ma bibliothèque musicale ne m'est plus accessible à partir d'Apple Music. Il s'agit de musique que j'ai numérisée à partir de CD. Quand j'essaie de les écouter, l'application dit de ne pas avoir la licence pour les jouer. De mon Mac à mon iPhone, l'application me prévient que certaines pièces pourraient ne pas être transférées en raison de licences qu'Apple ne possède pas. Existe-t-il une façon de récupérer ma musique achetée en bonne et due forme? » Vous ne devriez jamais perdre l'accès à de la musique que vous avez achetée en bonne et due forme. Chaque changement de support pour la musique qu'on achète a forcé bien des consommateurs à devoir racheter leurs albums préférés dans un nouveau format. 33 tours, cassettes, CD, fichiers MP3 et maintenant, la diffusion continue. Dans votre cas, le coupable est la fonction « Synchroniser la bibliothèque » d'Apple Music. En tentant de faire correspondre vos fichiers numérisés avec son propre catalogue en ligne, le service finit par remplacer vos fichiers locaux par leur version web diffusée. Si la licence de cette version expire ou change, Apple vous bloque l'accès, même si à l'origine, c'est votre propre musique. Pour reprendre le contrôle, vous devez empêcher cette correspondance. Sur votre Mac, dans l'application Musique, allez dans les réglages ou préférences et décochez l'option « Synchroniser la bibliothèque ». Vous devrez ensuite gérer votre musique à l'ancienne en connectant votre iPhone à votre Mac avec un câble USB pour y transférer manuellement vos fichiers originaux. Alain Marcoux, un lecteur, demande « Chaque fois que j'allume mon portable, une fenêtre s'ouvre et me demande d'installer CCleaner. Est-il nécessaire et sécuritaire d'installer cela? Sinon, comment puis-je me débarrasser de cette fenêtre afin qu'elle ne revienne plus? » Non, ce logiciel n'est absolument pas nécessaire. CCleaner était un outil populaire il y a une décennie pour nettoyer le registre de Windows et libérer de l'espace disque. Aujourd'hui, les outils intégrés à Windows 11 s'occupent de cet entretien. Si cette fenêtre surgit à chaque démarrage, c'est que le programme ou sa version d'installation est sur votre machine. Il est souvent inclus avec d'autres logiciels gratuits et peut-être en avez-vous installé un récemment. Pour retrouver la paix, la solution est simple. Allez dans les paramètres de Windows, puis dans la section « Applications ». Faites défiler la liste des programmes installés. Cherchez CCleaner et désinstallez-le tout simplement. La fenêtre de harcèlement va disparaître du même coup. C'était « Mettre fin au pourriel, récupérer sa musique et éradiquer un logiciel intempestif ». Un texte d'Alain McKenna, paru le 12 novembre 2025 dans la presse.
Mieux choisir grâce à l'intelligence artificielle. Un texte du Dr Alain Vadeboncœur, publié dans l'Actualité, édition de mars 2026. Un homme de 78 ans est hospitalisé pour des douleurs à la poitrine. Il vit avec un diabète, une maladie pulmonaire, des reins fatigués et un cœur marqué par un ancien infarctus. Et il doit être opéré pour un déblocage de ses artères coronaires. On lui présente la chirurgie cardiaque comme une chance d'améliorer son sort. Mais quel en est le risque et quelle durée de vie cette intervention permettra-t-elle de gagner? C'est ici que la notion de pronostic joue un rôle clé en éclairant le choix et en aidant à prendre la décision la plus appropriée. Elle consiste à estimer l'évolution vraisemblable d'un état de santé y compris l'éventualité de décès. Non pour établir une certitude, ce qui est impossible, mais au moins pour offrir un horizon plausible. Le pronostic dépend de facteurs qui se renforcent toujours entre eux. Le problème principal, l'âge, les autres maladies dont souffre la personne, la raison de l'admission, l'état de santé actuel et l'intensité des soins en cours, par exemple. Les médecins basent leur jugement sur des données plutôt fiables lorsqu'il s'agit de se prononcer sur le pronostic d'un problème isolé, tel un cancer, un trouble cardiaque sévère ou un accident vasculaire cérébral, pour lesquels il est possible de prédire une survie moyenne en année, par exemple sur 5 ans, sans toutefois réussir à bien individualiser les conclusions. La démarche est beaucoup plus difficile quand plusieurs maladies touchant divers systèmes se chevauchent, comme c'est souvent le cas à l'hôpital. Parce que même si chacune paraît isolément gérable, c'est une fois les maladies combinées qu'elles pèsent plus lourd qu'on ne le pense. Face à ce genre d'exercice complexe, sous-estimer le risque demeure assez fréquent. C'est ici que les nouvelles approches incorporant l'intelligence artificielle aident les cliniciens à voir plus juste. Une idée qui se retrouve notamment au cœur des recherches menées à Sherbrooke par le médecin-chercheur Jean-François Étier, titulaire de la chaire de recherche en informatique de la santé au groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé. Ses travaux concernent entre autres la mise au point d'un modèle de pronostic fondée sur l'intelligence artificielle, afin d'en vérifier la plus-value clinique, par exemple pour faciliter les conversations cruciales touchant les objectifs de soins, ce que la personne veut, ne veut pas et surtout jusqu'où elle souhaite aller si son état se dégrade. Une discussion qui vise à opter pour les traitements bien adaptés à sa réalité. Si l'évaluation pronostique montre un risque élevé de décès dans l'année, certains patients pourront par exemple refuser une intervention lourde ou une convalescence prolongée afin de privilégier leur confort pour mieux profiter de la présence de leurs proches, sachant qu'à tout moment, sauf pour des soins futiles, sans indication médicale, qui ne sont habituellement pas à faire, la liberté de décider reste entière. Efficace ou pas, cet outil d'intelligence artificielle? Je vous le donne en 1000. L'approche fonctionne bien, arrivant à prédire avec justesse le pronostic. Mais cela n'évacue toutefois pas le point le plus délicat de son utilisation. Au terme de quelle démarche peut-on lui demander une telle prédiction? À cet égard, deux visions complémentaires sont débattues. Certains jugent que cette estimation est un test à part entière et qu'elle requiert un accord clair de la personne pour qu'on la pratique. C'est l'option prudente. D'autres considèrent que cette information, construite à partir d'éléments présents dans le dossier, fait déjà partie des données accessibles, un peu comme celles offertes par les scores de risque utilisés couramment par les médecins. Mais on conviendra la durée prévisible de la vie demeure un enseignement plus significatif que le risque de souffrir d'un caillot dans une jambe ou d'un blocage des artères coronaires, probabilité couramment évaluée à partir de règles de décision clinique simples, ne requérant pas d'accord particulier. J'ai personnellement l'impression qu'on devrait vérifier le souhait du patient de connaître ou non cette information. Mais dans tous les cas, l'objectif ne peut être d'imposer une décision plutôt que d'offrir l'information la plus claire possible pour un échange qui doit avoir lieu. Si la personne souhaite être mise au courant, intégrer la conclusion de manière explicite permet de mieux calibrer la discussion. Cela dit, hésiter ou oublier de demander une prédiction en cas de fragilité clinique demeure en soi un risque, parce que le clinicien pourrait mal juger une situation plus défavorable qu'il n'y paraît. Il reste qu'instruire notre patient de 78 ans de son pronostic précis, c'est lui redonner la main et renforcer l'alliance thérapeutique avec la meilleure information disponible. Pour les décisions les plus importantes, c'est en droite ligne avec le niveau éthique le plus élevé en médecine. Fin de ce texte d'Alain Vadeboncœur, titré « Mieux choisir grâce à l'intelligence artificielle », texte publié dans l'actualité édition de mars 2026.
La responsabilité des influenceurs. Un texte de Marie Tison, paru le 31 décembre 2025 dans la presse. De belles images, un message inspirant. Il suffit parfois d'une séduisante publication sur la page d'un influenceur pour amener les gens à concocter leur propre aventure en plein air. S'il s'agit d'inciter les gens à sortir de chez eux et à aller jouer dehors, c'est excellent. Mais si la publication a pour effet d'envoyer des gens mal préparés, mal équipés, dans des endroits potentiellement dangereux, c'est plus problématique. Je pense que les créateurs de contenu ont une responsabilité, mais on sait que l'éthique est variable d'un créateur à un autre. Reconnaît Dominique Arpin, animateur, auteur et conférencier, suivi par plus de 157 000 personnes sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, il faut que les gens prennent aussi leurs responsabilités, ajoute-t-il. Il faut un minimum de connaissances, un minimum de recherche avant de s'aventurer. Récemment, Dominique Arpin a déclenché, bien malgré lui, une petite controverse sur les réseaux sociaux avec une publication sur une sortie au Mont Washington, dans le New Hampshire, ornée d'une très belle image d'un coucher de soleil. Dominique Arpin y raconte comment ses amis et lui ont bravé des rafales à plus de 100 km/h et un froid mordant pour atteindre le plus haut sommet du nord-est américain. J'ai fini mon texte avec une phrase qui disait « Qui n'ose rien n'a rien, alors osez ». C'est le mot « oser » qui a déclenché un débat sur les réseaux sociaux. Certaines personnes jugeaient qu'il était irresponsable d'inciter les gens à affronter le Mont Washington, une montagne particulièrement dangereuse en raison de conditions climatiques extrêmes. Plus de 150 personnes y ont perdu la vie. Et chaque année, environ 25 personnes doivent être secourues, mettant en danger des secouristes souvent bénévoles. Certains sentiers sont particulièrement exigeants, surtout en hiver. Ils nécessitent de l'équipement d'alpinisme et les connaissances pour l'utiliser. C'était peut-être un peu maladroit, reconnaît Dominique Arpin, mais ce n'était tellement pas une publication pour encourager le monde à aller sur cette montagne-là sans préparation. Dès qu'il en a eu l'occasion, il a ajouté une note à la publication originale pour rappeler qu'il ne fallait pas prendre cette ascension à la légère. Il est important de s'informer sur les conditions météo et les risques d'avalanche avant de s'y aventurer, a-t-il écrit. Il faut également posséder le bon équipement et les bons vêtements. Une semaine plus tard, il a publié une vidéo qui montrait clairement la préparation qu'avait exigée l'ascension et l'équipement technique qui avait été nécessaire. Les gens qui me suivent, qui me connaissent, qui ont vu mes émissions, savent que je ne suis pas une tête brûlée qui encourage le monde à faire des niaiseries, déclare-t-il à la presse. Il explique qu'il s'intéresse de plus en plus à l'alpinisme, qu'il a un projet d'expédition au Népal et qu'il a donc suivi une formation en alpinisme pour s'y préparer. La sortie au Mont Washington servait donc à tester le matériel et les connaissances. J'ai appris plein de choses, dit-il, autant sur la montagne que sur la façon dont on partage ces histoires-là en ligne. Toute cette controverse m'a fait réaliser qu'on a une responsabilité. J'en prends bonne note. Si certains influenceurs encouragent les gens à sortir, un peu, de leur zone de confort, d'autres, au contraire, font des publications tellement dramatiques qu'une petite sortie au Mont Saint-Hilaire ressemble à une expédition sur l'Everest. Ils mettent de l'avant le côté extrême, le côté défi, observe Dominique Arpin. Pour quelqu'un qui n'est jamais allé, c'est dur de se faire une idée sur ce qu'est la réalité. Mais en même temps, les gens ont la responsabilité de faire leur devoir, de faire des recherches sérieuses. René-Claude Bastien, guide d'aventure et coordonnatrice du programme de guide en tourisme d'aventure au Cégep de Saint-Laurent, se préoccupe au sujet d'un autre type d'influenceur, celui qui bénéficie de sa notoriété pour organiser des expéditions. Elle fait valoir qu'être guide, c'est un vrai métier qui nécessite des années de formation, des compétences techniques pointues, des responsabilités lourdes et assumées, et une capacité rare à porter le rêve des autres sans jamais imposer le sien. Je crois profondément qu'il y a une place pour chacun, à condition de respecter les métiers, affirme-t-elle. L'influenceur a une expertise réelle, celle de raconter, d'inspirer, de mobiliser. Le guide a une autre expertise, celle de planifier, d'anticiper les risques, d'intervenir en milieu naturel. Elle estime que lorsqu'un influenceur souhaite accompagner un groupe, il ne devrait pas se proclamer guide, mais se former ou encore collaborer avec un guide professionnel. Unissons les compétences, l'inspiration d'un côté, la sécurité et le cadre de l'autre. Ce n'est pas une question d'ego, mais de responsabilité. C'était « La responsabilité des influenceurs », un texte de Marie Tison, paru le 31 décembre 2025 dans la presse.
Plus qu'une lecture. Les livres en langue étrangère redessinent les bibliothèques. Un texte de Jean-Philippe Giroux, publié le 22 décembre 2025 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Farsi, Hindi, Punjabi. La demande pour les livres n'étant ni en anglais ni en français dans les bibliothèques de la Nouvelle-Écosse est en hausse, surtout parmi les populations de nouveaux arrivants. Un effort de la part des bibliothécaires visant à soutenir l'apprentissage dans toutes les langues, mais aussi un engagement envers la diversité, d'équité et d'inclusion. C'est le résultat de l'évolution démographique observée au cours des 5 dernières années due à l'immigration, pointe Mansi Nishit Trivedi, bibliothécaire des services techniques de PARL, Picto-Antigonish Regional Library, et directrice de succursale à la Bibliothèque publique de New Glasgow. Il y a différentes personnes venant de différentes parties du monde qui aiment apprendre une nouvelle langue, telle l'anglais, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, mais qui souhaitent également rester en contact avec leur langue maternelle, maintenir un lien avec leur littérature et transmettre leur culture à leurs enfants. Same Page, le partenariat provincial entre les 8 régions en dehors de la municipalité régionale d'Halifax, MRH, est à l'œuvre depuis 2 ans afin de finaliser son projet d'expansion de ses collections numériques multilingues, une initiative financée par un programme provincial. Le pré-lancement du projet, un ajout aux collections imprimées dans les 80 bibliothèques régionales, a eu lieu en octobre, suivi d'un lancement officiel en décembre et d'une promotion en ligne. Je suis passionné par les langues et les cultures. Je viens moi-même d'un pays riche en culture et en langues. En Inde, on parle plus de 300 langues. J'ai donc grandi en parlant 3 langues différentes. L'anglais est techniquement ma 4e langue. J'ai toujours été fasciné par les gens qui parlent différentes langues et j'ai essayé d'apprendre quelques phrases quand c'était possible. Mansi Nishit Trivedi. Selon la communauté, chaque équipe régionale devait évaluer les priorités pour sa communauté et essayer d'identifier les langues de la majorité de ses membres. Mansi Nishit Trivedi, dans son coin de la province, a collaboré avec l'Association multiculturelle du comté de Pictou ainsi que les responsables de cercles de conversation locaux. Un cercle de conversation est un espace destiné au dialogue et à l'échange sur des sujets entre membres d'une communauté et peut prendre différentes formes. Dans ce contexte, l'on parle d'un groupe de discussion entre nouveaux arrivants dont le but et de pratiquer l'anglais oral dans un environnement décontracté et sans stress, et approfondir leur compréhension de la culture et du milieu de travail canadien, selon le site Internet de l'Association des services aux immigrants de la Nouvelle-Écosse. Dans la région de Pictou-Antigonish, 18 langues, y compris le français, ont été sélectionnées pour les collections virtuelles. Les données du dernier recensement ont permis de déterminer, hormis l'anglais et le français, quelles sont les 10 langues les plus parlées, à savoir l'arabe, le chinois, l'allemand, l'hindi, le coréen, le polonais, le pendjabi, l'espagnol, le russe et l'ukrainien. À Halifax, qui a son propre système de bibliothèque publique, 40 langues sont représentées, mentionne Erin Morris, gérante du développement des collections de Halifax Public Libraries. Ce dernier se concentre sur les langues les plus parlées dans les communautés et tente de créer des collections solides dans ces langues. La liste des langues évolue au fil du temps, à mesure que les communautés de Halifax changent elles aussi. Nous nous efforçons sans cesse de répondre aux besoins des différentes communautés au sein de la grande région métropolitaine d'Halifax. Et une façon de faire cela est à travers la création de collections qui répondent aux besoins, à la lecture de plaisir et aux besoins d'information de chacun au sein de notre communauté. Bien que la collection multilingue d'Halifax a pris de l'expansion au fil des dernières années, les premiers documents multilingues remontent au milieu des années 90, à l'époque où Halifax Public Libraries a vu le jour, à la suite de la fusion entre Halifax, Dartmouth et le comté de Halifax. De plus, dans certaines régions où les cultures fondatrices, Mi'kmaq, acadiennes, gaéliques, sont davantage dominantes ou influentes, les collections dans ces langues sont plus volumineuses. Cela dépend vraiment du public et de la communauté de cette bibliothèque en particulier, précise Nishit Trivedi. Elle peut être différente de toutes les autres bibliothèques, mais nous faisons de notre mieux pour diversifier autant que possible la collection. Le soutien des fournisseurs travaillant avec Overdrive, le plus grand fournisseur de livres électroniques, de magazines électroniques et de livres audio au monde, il était clair pour Mansi Nishit Trivedi et ses collègues qu'il fallait commencer par conclure des accords avec les fournisseurs et les éditeurs. Après 2 ans de travail sur le projet, nous avons enfin conclu suffisamment d'accords avec les fournisseurs, déclare Nishit Trivedi. Un projet qui donne aujourd'hui un accès instantané à plus de 335 000 titres numériques en 10 langues provenant de 15 000 éditeurs à travers le monde. À Halifax, une panoplie d'outils ont été utilisés pour développer ces collections, des palmarès aux listes de prix littéraires. Pour développer celles en français, les fournisseurs canadiens tels que Renaud Bré et les maisons d'édition régionales comme les éditions Bouton d'Or Acadie ont été d'une grande utilité. L'on examine aussi les collections d'autres bibliothèques publiques au Canada, en particulier celles qui possèdent une collection française plus importante comme la Bibliothèque publique d'Ottawa ou le Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, afin de voir ce qu'elles ajoutent et ce qui est populaire dans ces établissements, explique Erin Morris. Dans certaines collections des bibliothèques d'Halifax, comme celle en français, l'on mélange des œuvres initialement écrites et publiées dans la langue originale, mais également des livres traduits de l'anglais. Ayant lu le livre en anglais et souhaitant apprendre le français, les lecteurs choisissent parfois le même livre en français, retrace Morris. Connaissant déjà l'histoire, une relecture dans cette autre langue les aide à approfondir leur connaissance de celle-ci. Pour les collections en langues étrangères, c'est une autre histoire. Halifax Public Libraries travaille avec le fournisseur Multicultural Books and Videos, MCBV, en leur donnant des critères correspondant à ce qu'ils recherchent, tels que la dite langue, la tranche d'âge, le genre littéraire et les dates de publication, par exemple. MCBV, par la suite, travaille avec des éditeurs du monde entier pour acheter ou obtenir du matériel qui correspond au goût du lectorat. Acheter du matériel multilingue est un processus long, donc il, le fournisseur, travaille avec des éditeurs dans les différents pays et ils le font également pour les bibliothèques à travers le Canada, dit Morris, Donc, avoir ce point central qui coordonne en quelque sorte tous ses achats auprès des éditeurs d'autres pays permet de rationaliser ce processus. Pour apprenants et amateurs, le partenariat SamePage voulait aussi évaluer la qualité de ses collections numériques multilingues. Il était important pour les bibliothécaires d'inclure bien plus que des manuels de langue, en ajoutant, entre autres, de la fiction et de la non-fiction pour les amateurs de livres. C'est notamment en identifiant les membres de ces communautés qui parlent les langues respectives que l'équipe a pu améliorer ses collections numériques multilingues. Ensuite, bien sûr, ce projet a pris un peu plus d'ampleur, poursuit Mansi Nishit Trivedi, car j'ai pensé que je devrais acheter des livres imprimés en anglais qui représentent des histoires d'immigrants, de réfugiés. Ils s'identifient beaucoup à ces histoires. Et ils aiment lire des récits sur les immigrants, leur expérience lorsqu'ils s'installent dans un autre pays. C'est aussi de choisir des titres familiers aux locuteurs de ces langues. Des gens viennent s'installer ici depuis les quatre coins du monde, et parfois, ils aiment relire des ouvrages qu'ils ont déjà lus dans leur pays d'origine. Quand ils les trouvent dans leur langue, dans une bibliothèque, dans un autre pays, ils aiment les lire et les relire. Je pense que c'est parce qu'ils ont un lien particulier avec leur langue. Halifax Public Libraries, en plus de son offre de livres imprimés, de livres électroniques et de livrelles, offre un accès aux journaux d'autres pays. Par exemple, un nouvel arrivant peut accéder à travers nos ressources en ligne aux journaux de ses pays ou villes d'origine, et cela peut être une manière qu'il se sent connecté à sa famille et à l'actualité qui se passe d'où il vient. « Back home », selon Erin Morris. Nous proposons également divers programmes tout au long de l'année, des programmes destinés aux nouveaux arrivants, mais aussi de juste créer un environnement accueillant, pour que n'importe qui franchit nos portes puisse trouver quelque chose pour eux, qu'il s'agisse d'un livre à lire, d'un film à regarder, d'un programme auquel participer ou d'un nouvel ami à se faire, conclut-elle. C'était plus qu'une lecture, les livres en langues étrangères redessinent les bibliothèques, un texte de Jean-Philippe Giroux, publié le 22 décembre 2025 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.